elle est pour vous, Bruno Coleman. Est-ce qu'il y a des pays, des populations qui ne sont pas impactées par cette guerre aujourd'hui ?
Non, je crois que le monde entier sera impacté. Peut-être pas dans la même mesure, mais cette guerre est un point de discontinuité majeur dans les géopolitiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on commence à comprendre que la mondialisation qui semblait heureuse, facile et peu chère va devenir onéreuse, difficile et crée beaucoup de frictions puisqu'on voit apparaître des pénuries alimentaires, certainement des pénuries énergétiques, c'était annoncé hier en Allemagne. Et donc le degré d'interdépendance des économies est mis sous tension. Donc c'est vraiment un phénomène majeur qui, je crois, va impacter nos économies pendant de très très longues années parce que c'est un conflit qui est de nature à s'enliser et à accroître d'ailleurs les besoins militaires de part et d'autre. Donc c'est vraiment un changement par rapport au contexte, on va dire, d'expansion économique qu'on a pu connaître depuis maintenant une quarantaine d'années. Et bien sûr, ça tombe mal parce que c'est arrivé après la crise du Covid, qui était un choc mondial. Ça crée donc une difficulté sur la difficulté et ça va remettre en cause, je crois, à un certain moment, les configurations sociales dans certains pays. Donc tous les pays sont impactés. Il y a des pays dont on parle moins et qui le sont encore plus que nous, sont les pays africains. Les prix augmentent de manière spectaculaire. En Éthiopie, par exemple, les prix alimentaires ont augmenté de 50%. Et donc, dans ces pays déjà vulnérables, ça veut dire qu'il y aura des dissensions sociales évidemment importantes, avec sans doute des émeutes de la faim qui vont devoir être réprimées. Donc, c'est en fait catastrophique, c'est en train d'arriver.
C'est une situation, Charles de Montpellier, je le disais, qui génère aussi beaucoup d'incertitudes. C'est le cas dans à peu près toutes les crises. Mais c'est vrai que là, on ne sait pas trop où on va, et c'est aussi très difficile de mener des politiques efficaces, que ce soit des politiques économiques ou autres dans ce contexte.
Oui, et je pense que l'incertitude, c'est vraiment le mot qui définit finalement les 4 mois qu'on a vécu, et quasiment tout le premier semestre de cette année. Tout a changé, tout a été chamboulé par cette guerre, et finalement on voit que tous les agents économiques, comme on tend à dire quand on est économiste, mais ça veut dire simplement les ménages, les entreprises, les gouvernements, sont face à des conditions qu'ils ne maîtrisent pas et dans lesquelles ils ont du mal à prendre des décisions. Et en fait, toute cette incertitude conduit finalement tout le monde un peu à postposer ses décisions, notamment les décisions de consommation, mais pas seulement aussi les décisions d'investissement, les décisions pour le futur, et donc tout ça, ben, conduit à finalement un ralentissement très marqué des économies. On le voit à travers le monde, on le voit en Europe, en Belgique bien entendu, mais aussi aux États-Unis et dans les pays en voie de développement qui sont durement touchés, comme le disait Bruno Coleman. Donc finalement, cette incertitude, elle ajoute du choc au choc, si je puis dire. Donc on n'a pas juste un choc sur les prix de l'énergie ou les prix de l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qu'on a, mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi cette incertitude et le fait qu'en effet, le conflit s'enlisse. C'est aussi le fait qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, notamment en termes d'approvisionnement. Hein, et on a parlé du gaz beaucoup cette semaine. Mais voilà, c'est un élément majeur qui va impacter finalement notre vie quotidienne dès cet hiver et probablement pour les hivers prochains. Donc tout ça fait qu'on a des agents qui sont très attentistes et ça ralentit très brusquement une économie qui redémarrait après le Covid.
Philippe Defaite, vous parleriez, vous aussi, d'un basculement. Est-ce qu'il y aura demain des choses qui n'existaient pas hier et inversement? Est-ce qu'il y a vraiment un point là de bascule qui est en train de s'opérer?
De manière générale, on est en train de constater que détruire va plus vite que construire. Hein, toute une série de progrès ont mis des décennies à être accumulés et puis tout ça peut disparaître en très peu de temps. Sur la question, est-ce qu'il y a des pays qui vont s'en sortir un peu mieux que d'autres? Oui, probablement un peu mieux. Ceux qui ont quand même une autre ressource, et on va voir quelque chose qu'on a vu exceptionnellement dans l'histoire économique de l'après-guerre, on va voir des pays qui vont interdire d'exporter. Et on a déjà vu des produits qui interdisent d'exporter. Ça veut dire qu'on garde pour soi une ressource qui, dans le temps, pouvait être échangée. Il y a quelque chose qui a échappé, je pense, à beaucoup d'observateurs, que ça fait déjà, en fait, quelques années que le commerce mondial augmente au même rythme que le PIB, ce qui a été le contraire de tout ce qui s'est passé au cours des années précédentes, où le commerce mondial a évolué plus vite. En ce qui me concerne, on va voir aussi d'abord que c'est très bien de critiquer la mondialisation, elle a eu ses mauvais côtés, mais le contraire de la mondialisation, ça ne va pas se faire sans casse économique et sociale. Hein. Donc, je donne un exemple très clair. On parle beaucoup de relocaliser la production alimentaire, c'est très bien, tout le monde peut adhérer à ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos exportateurs wallons de viande qui exportent 90% de leur production? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos producteurs wallons qui exportent 90% des pommes de terre? Alors moi, je voudrais juste peut-être conclure cette première intervention en disant, je sais bien que l'expression est galvaudée, mais je pense vraiment qu'on est à la fin d'une époque. et que ça va se cristalliser beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et ce que j'appelle la fin d'une époque, c'est que, en fait, les 70 ans depuis la sortie de la guerre, c'est on a tiré sur toutes les ficelles possibles et imaginables. On a d'abord continué à exploiter le Congo, qui est quand même une partie importante de notre richesse et de notre base économique aujourd'hui. La mondialisation, la libéralisation, la politique agricole commune, etc. Il faut rappeler que tout ça nous a permis d'avoir une inflation extrêmement basse sur des choses essentielles pendant des années. On a surexploité l'environnement, on a eu au cours des 10 dernières années de l'argent extraordinairement bon marché. Eh bien, toutes ces floches-là, c'est fini. Il n'y a plus de floches au tour suivant sur le carrousel, et les floches qui restent, on n'a peut-être pas envie de les tirer. Et ça, c'est un constat terrible. J'insiste bien, hein, je sais bien que l'expression est galvaudée, mais ici, elle ne l'est pas.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire qu'on a aussi, avec la crise russe, déjà un avant-goût aussi de l'enjeu de la sortie de notre dépendance énergétique qui est liée aussi à toutes les ambitions qu'on s'est fixées par rapport à l'enjeu climatique. Et Bruno Coleman, quelque part, ça vient accélérer quelque chose qui se serait de toute façon posé, non, quand même, de se dire à un moment donné que pour sortir de notre dépendance énergétique, il y a des choix douloureux qu'il va falloir faire, des investissements importants qu'il va falloir faire. Ici, on est obligé de les faire à marche forcée et peut-être aussi du coup, de faire des choses qui seront parfois un peu contre-productives par rapport à cet enjeu climatique, comme quand on décide, cette semaine, en Autriche et en Allemagne, de rouvrir des mines de charbon, par exemple, et de relancer des centrales de charbon.
Finalement, ça met en évidence le degré d'impréparation de nos économies, parce que ces problèmes de transition énergétique étaient connus depuis extrêmement longtemps. On s'est donné le temps de le faire, peut-être trop de temps, et maintenant, on va peut-être faire les mauvais choix. Parce que comme nous serons acculés à gérer un présent, un quotidien immédiat, avec sans doute des revendications sociales extrêmement importantes, on va effectivement prendre des choix qui seront exactement opposés à ce qui avait été préconisé il y a quelques années. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, la question du nucléaire se pose de manière plus aiguë qu'auparavant. Tout le monde était plus ou moins d'accord de sortir du nucléaire en Belgique il y a quelques années. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas en sortir. Et donc, cette raréfaction d'énergie va être une des contraintes les plus importantes de nos économies. Parce que, et Philippe de Fayette a raison de le souligner, on a vécu dans l'abondance de tout, de la mondialisation, l'abondance alimentaire, énergétique, et aujourd'hui on se rend compte que cette mondialisation était plus fragile qu'on l'avait imaginé, et que donc on va retrouver, certains utilisent l'expression, les contraintes d'une économie de guerre, d'une économie de raréfaction. Je ne dis pas qu'on va en revenir au ticket de rationnement, mais quand j'entends que certains pays commencent à rationner ou pensent rationner l'énergie, ça veut dire qu'effectivement les ressources deviennent rares. Et pour répondre à votre question, Monsieur Reussen, effectivement, ça va dans le bon sens, ça va nous faire prendre conscience du fait que, comme c'est rare, on doit utiliser les ressources de manière plus parcimonieuse, mais dans un premier temps, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. Et donc, on ouvre des centrales à charbon en Allemagne. Donc, tout ça est extrêmement perturbant. Moi, je pense, et de nouveau, ça fait écho à ce que Philippe de Fayette disait, c'est qu'on a vécu dans une bulle de bien-être qui a été d'ailleurs initiée par ce fameux néolibéralisme il y a 40 ans, qui nous a apporté prospérité, innovation, croissance, mais on n'en a pas compris les contraintes. On a un tout petit peu confondu la mondialisation qui a accompagné l'économie de marché, d'ailleurs, avec le temps des colonies. Tu faisais référence au Congo, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, notre degré d'interdépendance est bien plus élevé qu'on avait imaginé. Donc, ça va être très, très compliqué. Et il y a cette dernière variable dont on ne parle pas parce qu'elle semble avoir disparu dans l'économie de marché, mais c'est le facteur social. Parce que dans l'économie de marché, finalement, le travail, c'est une variable résiduelle. Aux États-Unis, on s'en fout, les gens sont au chômage, travaillent, ne travaillent pas, de toute façon, il n'y a pas de protection sociale. Mais dans les États sociaux, au sein desquels on a garanti par un contrat à long terme un certain niveau de confort à la population, en rétribution d'ailleurs de cotisations et d'autres impôts, ça va poser problème. Et donc il y aura à un moment un étirement de la population qui va conduire à des grandes dissensions reflétant l'inégalité que cette économie de marché, aggravée par le choc qu'on vit maintenant, est en train de révéler.
Je peux réagir sur un point. Parmi les floches qu'on a tirées pendant toute cette période, c'est qu'on a préféré consommer que d'investir. Même indépendamment des questions écologiques et autres. Hein. Quand on voit l'état de nos logements, de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos routes, mais tout ça, cette préférence encouragée, préférence pour la consommation, plutôt que les investissements.
Et en faisant aussi comme si l'énergie, finalement, avait très peu de coûts. Et c'est ça dont on se rend compte aussi aujourd'hui, c'est que l'énergie, ben, ça peut coûter cher et qu'on est totalement dépendant à tous les niveaux. Mm-hmm. Nous, consommateurs, entreprises, tout le monde est dépendant de l'énergie, et sans énergie, une économie ne fonctionne pas.
Oui, je pense que c'est assez clair. Et si on doit se concentrer simplement sur l'aspect économique hein, de la situation, voilà, on est arrivé avec des contraintes qui ont complètement été modifiées finalement, et on voit que ce qu'il va falloir, c'est que aussi bien les entreprises que les ménages se réadaptent à une nouvelle situation. Et ça, c'est toujours difficile, hein, la réadaptation vers un nouvel équilibre, hein, comme on dit, c'est toujours difficile. Ça amène des frictions, ça amène aussi des gagnants et des perdants hein, à tout niveau. Et donc là, clairement, cette période-là, elle est assez inconfortable parce que c'est une réadaptation. Mais je pense que la question de l'énergie, elle est probablement encore plus importante qu'on peut l'envisager à très court terme. À moyen terme, j'estime qu'on va aller vers un nouvel équilibre qui finalement va prendre compte de ces nouvelles contraintes et on va s'adapter. Mais à très court terme, ce sont des choses on a du mal à s'en passer de cette énergie peu chère et surtout de cette abondance d'énergie. Et donc quand on voit les annonces qui ont été faites cette semaine, par exemple sur le rationnement, le fait que c'est pas exclu qu'on ait plus de gaz russe à l'hiver, ça amène quand même une réorganisation finalement de notre appareil productif. Hein, donc ça veut dire très concrètement, ça veut dire que si on a un rationnement, ça veut dire que les entreprises n'ont pas la possibilité de produire. Et donc des gens sont mis au chômage en attendant qu'ils aient la possibilité de produire. Ça veut dire qu'il y a des salaires qui ne tombent pas, ça veut dire qu'il y a des produits qui ne sont pas disponibles parce qu'ils ne peuvent pas être produits. Donc ça a quand même des conséquences économiques importantes. Ça veut dire que si on devait se retrouver dans cette situation de rationnement, on aurait encore une crise, si je peux définir le mot actuel, enfin la situation actuelle d'une crise, beaucoup plus grave, avec probablement une croissance qui se dégrade sur l'ensemble de l'année, ce qui est beaucoup plus pessimiste que ce qu'on entend.
Surtout que dans tous les plans de rationnement, on préserve les ménages, c'est très bien, on peut comprendre, on préserve des besoins essentiels, mais ça veut dire qu'on sacrifie aussi la production, par exemple, d'engrais ou d'autres.
Tout à fait. Et ça a des répercussions parce que, on a bien vu avec le Covid, finalement, quand on arrête une partie de la chaîne, ça a des répercussions sur toute la chaîne et pendant longtemps. Donc, il faut bien être conscient que c'est massif comme élément perturbateur pour une économie comme la nôtre.
Ouais, je regardais, moi, tantôt un peu comment on se prépare, justement, à l'idée qu'on puisse couper le gaz russe pour cet hiver. Mais on sait qu'on va vers un schéma où on va devoir se passer du gaz russe, mais est-ce qu'on va le subir ou est-ce qu'on va le choisir? La différence, c'est aussi le timing. Si on peut s'organiser en plusieurs années, ou bien si dès cet hiver les Russes pourraient couper les robinets. Et alors c'est intéressant de voir un peu comment l'Europe se prépare en décidant maintenant d'imposer par exemple des stocks stratégiques, ce qu'elle ne faisait pas, ou en tout cas pas du tout autant avant. Mais alors il y avait par exemple un très bon article dans la Tribune cette semaine qui expliquait tout l'enjeu du réseau d'approvisionnement en gaz. Parce que comment est-ce qu'on a fonctionné jusqu'ici avec des gazoducs importants qui arrivaient de Russie, et puis avec d'autres gazoducs qui venaient de Norvège, et puis des terminaux de gaz naturel liquéfié. Si on n'utilise plus, à un moment donné, toute une partie du réseau, celui qui vient de Russie, ça veut dire déjà qu'on est un peu juste avec le reste du réseau pour faire transiter le reste du gaz. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des réserves pour pouvoir l'utiliser. Il faut encore qu'il y ait suffisamment de débit pour pouvoir l'envoyer là où on en a besoin. Et alors, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue économique, c'est que le fait que jusqu'ici, on avait quand même une surcapacité dans le réseau, permettait de faire jouer la concurrence. Donc si à un moment donné, il y avait le gaz qui venait de quelque part qui était plus cher, on pouvait en faire venir du moins cher d'ailleurs, et ça faisait baisser les prix. Si demain, on doit utiliser à pleine capacité et que même déjà on est un peu juste, cette concurrence-là ne va plus jouer de la même manière, on sera beaucoup plus dépendant des prix du marché, et s'il se passe encore d'autres événements ailleurs dans le monde qui pèsent aussi sur les prix du gaz, on risque d'avoir des pénuries, mais on risque de toute façon d'avoir un gaz qui sera très très cher. Et donc ça, c'est quand même très intéressant, je pense, aussi dans la perspective de l'hiver.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a le mot souverainisme, auquel on fait de plus en plus référence, va progressivement s'insinuer dans le domaine énergétique. C'est-à-dire que cette idée d'avoir un réseau européen et avoir quelque part un immense flux d'énergie, c'est valable pour le gaz, c'est valable pour l'électricité, qui passe d'un pays à l'autre, ça va être remis en question. Parce qu'une fois que les populations seront confrontées à des raréfactions, il y aura des manifestations. Et vous avez raison, M. Reussen, Fluxys pense d'ailleurs augmenter la capacité de ces tuyaux pour maintenant tirer profit du gaz liquéfié qui vient notamment des États-Unis et du Qatar. Donc il y a des changements structurels qui vont devoir être mis en œuvre, mais entre le moment où ces investissements seront aboutis et aujourd'hui, il y aura des problèmes qui vont se poser. Donc on va devoir être dans une autre logique économique. Et vous disiez tout à l'heure, madame, qu'effectivement ça va créer des problèmes pour les entreprises. Oui, quand on parle de stagflation, on parle d'un contexte concomitant de stagnation et d'inflation. Mais il faut prendre les choses par le bon bout. C'est l'inflation qui crée la stagnation. C'est-à-dire qu'à un moment, quand pour les entreprises, les prix augmentent, tant dans le domaine énergétique que les salaires, ce qui est légitime d'ailleurs parce qu'ils sont indexés, les marges baissent, ça veut dire peut-être moins de travail, moins d'embauches, moins d'investissements, des entreprises qui tombent en faillite, et donc ça crée une contraction économique qui elle-même se perpétue. Et donc, c'est pour ça que je suis très interpellé par le fait que notre personnel politique n'a pas bien intégré cette réalité. Cette inflation, ce choc n'est pas un choc simplement exogène, qui arrive une fois, qu'on subit, et puis ça passe. Non, pas du tout. Il y a des effets de second tour, c'est-à-dire qu'une fois que l'inflation apportée arrive, tous les mécanismes économiques internes à un pays commencent à être perturbés et auto-alimentent leur propre dynamique. Et nous ne sommes pas du tout préparés pour ce contexte parce que la référence paraît être anecdotique, c'est-à-dire les années 70, où on croit erronément que cette inflation sera passagère et que finalement l'année prochaine, l'année d'après, tout va se rétablir. Non, pas du tout. On est devant un choc d'inflation qui sera sans doute, à mon avis, de 10 à 12% cette année-ci. Contrairement à ce que certains organismes officiels disent, mais à partir de l'année prochaine, l'inflation organique sera de 4 à 5%, voire un peu plus.
Ce qui me frappe quand je vous entends ici autour de la table aussi, Philippe de Faith, c'est que... aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus l'économique qui dicte tout. C'est plus l'économie qui dicte tout par rapport à la Russie. C'est très clair. Elle aurait plutôt intérêt à exporter un maximum de gaz. Nous, on aurait intérêt à ne pas décider de sanctions par rapport à la Russie et de continuer à être approvisionnés. La politique chinoise, la politique américaine. Aujourd'hui, la politique et l'idéologie, dans certains cas, a repris le dessus, a-t-on l'impression ?
Oui, mais en même temps, c'est quand même des mécanismes économiques qui sont la conséquence de tout ce qui n'est pas économique et de ce qui est notamment politique et demain de ce qui est social, le risque existe. Moi, je voudrais revenir un instant, juste pour prolonger ce que disait Bruno. Le principal goulot d'étranglement, pour le moment, ce ne sont pas les tuyaux ni les stockages, mais les usines de liquéfaction. Et là, il faut 2 ou 3 ans pour en construire une supplémentaire ou des installations supplémentaires à Zeebruges. Et c'est la raison pour laquelle, madame, je pense que je n'ai, moi, aucun problème avec l'expression utilisée par Bruno, c'est économie de guerre. Nous sommes rentrés dans une économie de guerre. Maintenant, il va falloir assimiler ça. C'est quoi une économie de guerre ? Mais c'est notamment une économie où il faut faire des choix de priorité. Et à un moment donné, il va falloir consacrer plus d'argent, par exemple, aux investissements énergétiques. Autre exemple, la Flandre vient de décider d'un plan d'investissement de 7 milliards, rien que pour mettre à jour son réseau électrique. Bon, la Wallonie pense qu'elle va s'en sortir avec 1 milliard, mais c'est une illusion totale, parce que ce sera bien plus qu'un milliard, et donc ça veut dire, à un moment donné, des priorités. Je pense même qu'on va en arriver... Et je l'espère, quelque part, que dans le domaine des travaux financés, encadrés, soutenus par la collectivité, eh bien, demain, et ça ira plus vite qu'on ne le pense, il va falloir faire des choix. S'il y a pénurie de matières premières, s'il y a pénurie de main-d'œuvre, eh bien, peut-être que les investissements énergétiques sont plus importants qu'un rond-point supplémentaire ou une maison communale, etc. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. Les hommes politiques qui rentrent ici en campagne électorale bientôt communale, ça va être compliqué de dire, mais non, il y a des choses auxquelles on va renoncer parce qu'on pense qu'il y a des priorités. C'est ça une économie de guerre. Dans une économie prospère comme on a connu pendant des années, on peut quasiment tout faire. Si ce n'est pas fait cette année-ci, on sait qu'on aura l'année d'après. Mais dans une économie de guerre, il y a des choix.
L'économie de guerre, c'est un terme très fort. Charlotte de Montpellier, c'est une vision que vous partagez ?
Je pense que votre question était très intéressante de savoir finalement est-ce qu'on est retourné à une idéologie qui domine l'économie ou si est-ce qu'on est finalement comme d'habitude. Mais en fait, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que les principes économiques redeviennent importants. Et donc, est-ce qu'on peut qualifier ça d'une économie de guerre ? Non, je pense que c'est une économie qui est sous contrainte, mais c'est le principe de l'économie qui a des contraintes. Les contraintes sont devenues plus difficiles, elles nécessitent encore plus qu'avant de faire des choix, notamment... On en reparlera, je suppose, du fait que l'argent n'est plus gratuit et va le devenir de moins en moins. Donc, ça nécessite de faire des choix, que l'énergie n'est plus abondante. Donc, voilà, on est vraiment, en fait, retourné à la base de la science économique. Et il n'y a rien à faire quand on enseigne la macroéconomie. Dans le premier choc qu'on voit, c'est un choc sur le prix de l'énergie. Donc, c'est vraiment le début de l'économie. On en est là. Donc, je dirais qu'on a des contraintes qui avaient un peu disparu et qui sont revenues d'actualité. Et que ces contraintes, elles vont impacter le quotidien. Elles nous impactent déjà au quotidien, mais aussi les choix politiques et aussi la difficulté de décider si on va dans un domaine ou dans un autre, finalement.
Est-ce que l'argent va devenir plus cher ? Vous le mentionniez, et c'est la question qu'on va notamment aborder dans... Combat dans les banques centrales. La Fed, la banque centrale américaine, a relevé son taux directeur de 0,75%. C'est la plus forte hausse en quasi 30 ans. Alors le but aux États-Unis, c'est freiner l'inflation, rendre l'argent plus cher. Alors les consommateurs payent plus cher et donc ils achètent moins. Ça ralentit un peu la machine économique. C'est ça le principe. En Europe, on est en train de suivre la même logique, même si on n'est pas encore à ce niveau-là. Et la situation en Europe, elle n'est pas tout à fait la même. Bruno Coleman, on ne peut pas totalement comparer la situation américaine et la situation européenne parce que l'inflation ne s'explique pas tout à fait de la même manière non plus.
Donc, augmenter les taux d'intérêt dans une économie pour refroidir l'inflation, ça marche notamment si le plein emploi est quasiment atteint et si les usines tournent à plein régime, ce qui est le cas aux États-Unis. C'est une économie en plus qui est très autarcique. Et finalement, quand les prix d'énergie augmentent aux États-Unis, c'est un Américain qui paye plus cher qu'un autre Américain. Donc l'économie reste quasiment en circuit fermé. Et donc c'est une logique de faire augmenter les taux d'intérêt pour refroidir cette économie et plus ou moins calmer l'inflation. En Europe, c'est complètement différent. Parce que dans un premier temps, je le disais tout à l'heure, l'inflation est importée. Et augmenter les taux d'intérêt dans ce contexte ne sert à rien. Ça ferait pire que bien. Puisque non seulement les prix du gaz ne baisseraient pas, mais qu'en plus, les États et toute l'économie seraient grippés par cette augmentation de taux d'intérêt. Et on se rend compte d'une chose très intéressante, c'est que depuis 25-30 ans, on était parti de l'idée que, légitimement, la Banque Centrale Européenne était responsable du niveau d'inflation en Europe, et c'est la raison pour laquelle la plupart des États ont délégué à la Banque Centrale Européenne le taux d'inflation, la maîtrise de l'inflation, comme si une banque centrale était capable d'avoir une action appropriée pour 330 millions d'habitants, sans tenir compte des différences entre les pays, les régions et les cycles de production. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que cette banque centrale est complètement impotente. C'est-à-dire que elle ne peut pas augmenter les taux, elle va créer légèrement une récession. Les augmenter et les baisser, elle ne peut pas le faire.
Là, elle les a augmentés, mais très légèrement. Non,